Bonjour à vous tous, bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec vos initiatives, vos innovations et pourquoi pas notre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons tester le train à crémaillère du Mont Blanc avec la neige bien présente en montagne. Ensuite, nous apprenons beaucoup sur les hippocampes qui vivent paisiblement dans l'étang de Thau à côté de Sète. Et enfin, on rencontre un conteur pour la nuit de la lecture qui va se dérouler demain partout en France. Mais avant tout cela, place à l'actu de ce vendredi 18 janvier. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Letornier, bonjour à tous.
Un nouveau débat pour lancer le grand débat.
Le président face à 600 maires du Sud-Ouest cet après-midi, après les 600 maires normands mardi. Emmanuel Macron va en faire beaucoup, des débats comme ça, Nicolas Ballu.
Une dizaine d'ici le 15 mars avec des élus locaux. Seulement, la question se pose.
On va entendre des gilets jaunes qui se préparent pour demain.
Et qui adoptent pour certains une attitude différente en déclarant notamment la manifestation.
On va parler du sexisme ordinaire, celui de tous les jours, des injures ou des gestes déplacés.
4 femmes sur 10 indiquent avoir été dernièrement victime d'une injustice ou d'une humiliation. On va entendre des témoignages.
On jette un œil sur l'Open de tennis en Australie.
Pour s'apercevoir qu'il ne reste pas beaucoup de Français en course, Jean-Laurent Bernard.
Oui, ils sont 3 mais 4. C'est-à-dire qu'il y en a un qui joue 2 fois en simple et en double. Je vais tout vous raconter.
Oui, il faudra expliquer.
On ira dans un collège lire avec les élèves à la veille de la nuit de la lecture.
Dans ces écoles qui ont imposé un quart d'heure de lecture obligatoire chaque jour, mais en général, ça se passe très bien.
Bonne lecture donc, bonne écoute et bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Letornier, Denis Farouf sur France Bleu.
Les Français découvrent des coins qu'ils ne connaissent peut-être pas en ce moment.
Bourterolles, de 3000 habitants dans l'Eure, Souillac-sur-Dordogne, presque 4000 dans le Lot, son abbaye du XIIe siècle, et son grand débat cet après-midi avec le président face au maire d'Occitanie, dont le maire sans étiquette de Souillac, qui a préparé sa liste de demandes, Jean-Michel Sanfourche.
Injustice fiscale, l'ISF. Alors je sais que le président Macron, il a fait des promesses, donc il ne pourra pas trop y revenir. Mais je pense qu'il peut peut-être faire des petits gestes de façon à ce que les gens qui sont en souffrance se rendent compte que quand même, on déplace un petit peu le curseur vers eux. Ensuite, faites un geste pour les retraités. La CSG, l'augmentation de la CSG. Arrêtez-là. Il n'est pas normal que des gens qui ont cotisé toute leur vie, qui le 20 du mois, se posent la question de dire comment arriver à vivre. Donc permettez-leur d'avoir une retraite digne et sereine. Je pense que ça, il peut l'entendre. Dernière chose que je demanderai, une question d'équité. L'exonération de la taxe d'habitation. Que cette taxe d'habitation, elle soit pour la totalité des gens. Équité fiscale.
Le maire de Souillac qui accueille Emmanuel Macron cet après-midi. Avec 600 maires venus de 13 départements de la région et vous pourrez suivre la rencontre en direct et en vidéo sur francebleu.fr.
Une information a été glissée aux journalistes. Tant qu'il y aura des questions, le président répondra. On est reparti pour 7 heures de débat, Nicolas Ballu.
Alors, question à 1000 euros. Et Emmanuel Macron est à l'écoute et les élus ont des choses à dire. Maintenant, ce ne seront peut-être pas le record de durée ou l'impressionnante maîtrise des dossiers et des mécanismes locaux qui va cette fois ressortir. Le chef de l'État est dans un département très rural.
Oui, le Lot, 3 villes de plus de 4000 habitants.
Oui, et on est dans le Sud-Ouest. Les oreilles d'Emmanuel Macron risquent de siffler encore un peu plus que mardi. Il sera un peu plus encore confronté à la France des campagnes. Colère policée puisqu'il y aura des élus en face de lui. Mais le Tour de France d'Emmanuel Macron risque d'être un petit peu répétitif.
Avec une dizaine de dates, comme on dit, pour une tournée de concert.
Voilà, et encore avec des élus. Alors oui, Emmanuel Macron doit se réconcilier avec eux parce qu'il ne peut plus passer au-dessus des collectivités. Oui, il en a besoin aussi pour servir de relais auprès des Français dans son opération Grand Débat. Oui, il en a besoin pour des raisons politiques. Les élections européennes, municipales l'an prochain, puis la présidentielle. Il n'empêche, les premières voix s'élèvent déjà. Où sont les rencontres avec les Français pour le moment? On a bien compris la méthode de la visite surprise, une mardi, l'autre ce matin dans une école. Est-ce que c'est pour l'image? L'Élysée nous vend un président à l'écoute? Oui, peut-être, mais le Macron en campagne se trouve aussi dans le kit d'organisation du grand débat.
Nicolas Ballu, vous l'avez dit, Emmanuel Macron est déjà dans le Lot. Il a visité une école à Saint-Sauzis ce matin. Ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils ne s'embarrassent pas de bienséance. Ils tutoient allègrement Emmanuel, comme ils disent.
Deux Français sur 3 sont sceptiques sur l'utilité du grand débat, mais ils sont quand même plus nombreux désormais à savoir de quoi il s'agit après la dernière enquête au Doxa.
6 Français sur 10 comprennent en quoi il consiste et 1 Français sur 2 souhaite que le mouvement des Gilets jaunes se poursuive.
On est à la veille d'un 10e rendez-vous annoncé.
À Chambéry, un groupe de gilets a décidé de fonctionner autrement. Déjà en déclarant les rassemblements en préfecture pour en finir avec la violence, explique l'une des organisatrices, Mylène.
On n'est pas des troubles faites. On n'est pas là pour casser du flic. On n'est pas là pour casser des infrastructures publiques. On est là simplement parce qu'aujourd'hui, on ne se fait plus entendre par notre gouvernement. Aujourd'hui, on a voté pour des personnes, ça fait des années que ça dure, et on ne se sent plus représenté par ces mêmes personnes. Et la manière la plus pacifique qu'on a trouvée pour se faire entendre, bah, c'est simplement d'être là et de se faire voir. Samedi dernier, on était sur le marché, on a des personnes qui nous ont abordés et on est là pour parler de nos revendications. Et je pense même que tous, à titre personnel, l'ont fait auprès de nos familles, de nos amis. Et ceux qui nous connaissent, voilà, savent qu'on n'est pas des perturbateurs. On n'est pas là, les gilets jaunes, on n'est pas là pour faire le bazar. On est là pour montrer qu'aujourd'hui, il y a des problèmes en France et qu'on ne peut pas... faire comme s'il se passait rien, quoi.
Des gilets jaunes qui veulent changer de méthode pour se faire entendre avec Nelly Assena.
Au péage de la Barque, sur la 8 près d'Aix-en-Provence, ce sont des personnes cagoulées qui ont mis le feu hier soir.
8 cabines ont été incendiées avec du liquide inflammable et 15 personnes cagoulées ont été mises en fuite par les gendarmes. Début janvier déjà, 2 cabines du péage de la Barque avaient été brûlées. Personne n'avait été interpellé à l'époque.
Alexandre Benalla a été déféré au parquet de Paris ce matin afin d'être présenté à un juge d'instruction.
On est dans l'enquête sur l'utilisation contre de ses passeports diplomatiques après son limogeage de l'Elysée, des passeports utilisés presque une vingtaine de fois.
13h06 sur France Bleu. On a découvert l'état des lieux du sexisme en France avec l'enquête du Haut Conseil à l'égalité.
4 femmes sur 10 indiquent avoir dernièrement été victimes d'une injustice ou d'une humiliation du fait d'être une femme.
Et on retiendra que seulement 3% des actes sexistes qui tombent sous le coup de la loi font l'objet d'une plainte et seulement une plainte sur 5 conduit à une condamnation.
Voici le témoignage d'une femme qui raconte des gestes et des paroles déplacées en milieu professionnel. Evelyne a 61 ans.
C'est le directeur du département qui se tourne vers moi. Je suis assise à côté de lui. Il y a une grande table avec des invités extérieurs et qui me met la main sur le genou pour me donner la parole. Je lui ai pris la main, je l'ai levée au-dessus de la table. J'en ai des kilos, moi, de réflexions sexistes. Je m'en souviens d'une autre où c'est une grande réunion. Il y a des dizaines de personnes autour de la table et on dit... Oh, bah, Evelyne, tu vas nous chercher à boire parce qu'il fait très très chaud. Et je dis, bah, Evelyne n'a pas plus les mains en forme de porte-carafe que d'autres, donc ça va être plutôt Hector qui va y aller que Evelyne. Et ça crée un tollé, comme si j'avais dit quelque chose d'énorme, quoi.
Le rapport du Haut Conseil à l'égalité donne aussi ce chiffre. Plus d'un million de femmes ont été victimes d'injures sexistes en 2017.
Oui, 2017, mais c'est le premier état des lieux du genre. On entre dans ce que l'on appelle malheureusement le sexisme ordinaire, Julie Paco.
Les remarques sexistes, pour Louise et ses amis, la vingtaine, c'est du quotidien.
Quand on passe, ils nous disent « ouais, t'es charmante et tout ». Souvent, on répond juste « merci » pour qu'ils nous emmerdent pas. Mais c'est vrai que des fois, quand on répond pas, ils disent « ouais, surtout dis pas merci, connasse » ou des trucs comme ça.
Ta jupe, je vais te la déchirer. Ça m'est déjà arrivé à Montpellier, par exemple.
C'est pas que dans les grandes villes, parce que moi, j'habite dans un petit village dans le nord. Et quand je fais mon jogging que je cours, et ben, j'ai le droit à des réflexions. Allez, on va encore faire 3 tours, parce que là, c'est pas encore assez ferme.
Des réflexions, mais aussi des gestes, dont Rania a été victime. Il y a encore quelques heures.
Il est arrivé par derrière et il m'a grippé assez violemment par l'épaule et il m'a dit que comme quoi je lui plaisais, que ça faisait plusieurs fois qu'il me voyait. Il voulait pas me lâcher en fait. Quand je vois que des fois des hommes qui violent, tout ça, ils prennent pas beaucoup, je me dis que je vais pas moi aller porter plainte pour juste ça.
Ainsi, seuls 3% des actes sexistes donnent lieu à des plaintes. Pourtant, depuis l'été dernier, une loi pénalise le harcèlement de rue. Mais encore faut-il qu'il y ait flagrant délit. Pour Alexandra Louis, rapporteur du texte, cette loi a au moins le mérite d'être dissuasive.
Ce qui n'est pas interdit dans le code pénal, finalement, est toléré. C'est comme ça, c'est la loi. Dès lors qu'on le met, il y a une vertu pédagogique dans cette loi. Puis c'est un signal fort dans notre société de dire ben non, c'est interdit, c'est dans le code pénal, vous n'avez pas le droit de le faire.
Julie Paco, à la rencontre de jeunes femmes touchées par le sexisme ordinaire avec France Bleu Provence.
13h09 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera avec un livre, n'importe quel livre, du moment qu'on reprend goût à la lecture, à l'occasion de la nuit de la lecture proposée demain partout en France. Mais avant, on passe par Melbourne et les Deux-Sèvres avec du tennis et pas vraiment des bonnes nouvelles.
Quand on vous a dit ce matin, Jean-Laurent Bernard, il faut qu'on parle du tennis ce midi, on espérait une victoire française féminine à Melbourne, bah c'est raté, il ne reste plus que 2 Français à l'Open d'Australie de Melbourne.
Mais oui, pour la féminine, Caroline Garcia et son rang de 19e mondial n'auront pas vraiment pesé face à la 35e, l'américaine Collins. Le reflet parfait du mauvais état du tennis français. Même si chez les hommes, on a encore Pouille, qui sur papier devrait se débarrasser facilement de Popirine, un garçon de 19 ans qui n'est que 149e mondial. Mais il y a un hic, Popirine est australien et va donc jouer chez lui, comme un mort de faim, devant son public. Quant à Herbert, l'autre survivant, il aura intérêt à s'injecter du béton dans les veines pour résister au serveur fou, le Canadien Raonic, qui descend les services à plus de 220 km/h.
Et sinon, pour le reste du monde,
oh
si
bah,
j'ose dire.
Merci pour elle et pour eux, tout va bien pour Djoko, Nadal, Federer, Zverev. Merci aussi pour Alep, Williams, Sharapova ou Kerber, la routine quoi.
N'oublions pas quand même le double et le tournoi qui continue pour la paire Mahut-Herbert.
Mahut-Herbert, ça vous parle ?
Ah bah quand il n'y a plus personne, en général, ils sont toujours là en cours.
Ils sont plus que là, ce sont des surtitrés. Ils ont au moins 10 titres à leur actif, juste comme ça pour vous enrichir votre culture tennistique. Roland-Garros l'an dernier. Roland-Garros, vous savez, c'est du tennis sur terre battue à Paris.
Je vois, on s'y tue.
Wimbledon en 2016, l'US Open en 2015, puisque comme vous m'avez gâché, je vais vous donner d'autres titres qu'ils ont gagnés. Cincinnati, Rome, Montréal, Indian Wells, Miami, Monte Carlo. On pourrait continuer comme ça
Ils sont très forts. Ouais.
Vous avez compris, Frédéric Le Tournier, j'ai compris. Merci Jean-Laurent Bernard.
Tout à l'heure, un conteur va nous raconter une histoire dans Une Heure en France. On prépare la 3e édition de la Nuit de la Lecture. Ça, c'est demain, partout en France, avec 4500 initiatives dans 2000 lieux. Du coup, il y en a forcément une près de chez vous.
La lecture commence à la maison, mais aussi à l'école. Et on est ravis de voir se développer ces quarts d'heure de lecture imposée dans les collèges et les lycées. Imposée, mais rapidement appréciée en général. L'opération Silence on lit vient d'arriver au collège Cabanis, à Brive, Bruno Blanza.
10h, fin de la récréation, 514 élèves foncent dans les classes pour un moment qui se ritualise depuis lundi.
Vous installez avec votre bouquin pour lire.
Un quart d'heure de lecture plaisir.
Et on a besoin de silence pour ça.
Chaque cours du matin est grignoté de 3 minutes pour permettre ce temps individuel aux élèves, aux profs et à tous les personnels pour se plonger dans un roman, une bande dessinée, un manga ou une revue spécialisée avec des articles de fond. Pour certains comme Valentine, ça ne change pas grand chose.
Je lis souvent, j'adore lire.
Mais pour d'autres, à l'image de Tom, ça change tout car il ne lit
jamais parce que j'aime pas trop ça.
Sauf qu'il avoue accroché au roman qu'il vient de débuter.
C'est une fille qui a perdu ses parents et qui raconte le son passé.
Est-ce que ça peut te donner le goût de la lecture?
Ouais, parce que c'est intéressant de lire.
95% des élèves ont déjà assimilé ce temps et viennent avec leur lecture. Il faut dire que le CDI a été dévalisé.
C'est l'occasion de ramener un certain nombre d'élèves vers l'objet livre qu'ils ont perdu de vue depuis un petit moment tout de même.
Lance Philippe Mathieu, prof de lettres.
Sur 30 élèves, il y en a... En dehors des œuvres qu'on peut étudier en cours de français, plus d'une quinzaine, je pense, qui n'ouvrent jamais un livre d'eux-mêmes.
Curiosité développée, même pour le principal, Marc Bartoli.
Ils sont pas dans le sens ordinaire, j'apprends à lire les mangas.
Avant que l'activité normale reprenne son cours.
C'est reparti.
On fait le pari que l'expérimentation va être pérennisée à Brive, comme elle l'a été au collège Victor Hugo à Tulle. Merci Bruno Blanza. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Frédéric Le Tournier ? Ça nous donnera des idées peut-être ?
Mais écoutez, je viens de terminer du tout au tout. C'est signé Arnaud Le Guilchet. C'est un roman très fantaisiste sur le monde de l'entreprise, un peu, vous savez, sauce Boris Vian. C'est très très bien. Et si ça vous intéresse, eh ben, sachez que j'en fais la chronique dans le Mag les Loisirs Week-end demain. C'est à partir de 12h30.
Ah, très bien. Nicolas Ballu qui nous parlait de la visite d'Emmanuel Macron tout à l'heure.
Oui,
dans
mais
l'autre.
Ça n'a rien
vous lisez,
à voir.
Vous lisez quoi en ce moment ?
De commencer un livre d'Olivier Guez qui s'appelle La disparition de Joseph Mengele.
Ah oui.
Vous
c'est
lisez.
C'est oui, c'est pas très drôle.
Vous lisez les exploits de Herbert et Mahut, Jean-Laurent Bernard, en ce moment ?
Non, non, L'île au rébus, ça se passe sur l'île de Groix et c'est passionnant. C'est évidemment une enquête policière. Et on visite l'île et en même temps, on est dans une intrigue absolument impressionnante.
Et pour terminer, Denis, vous lisez quoi ?
Alors moi, je termine en ce moment très à table. Les nouvelles au profit des Restos du Cœur, c'est 5 euros le petit livre de poche avec des nouvelles de Alexandra Lapierre, Véronique Valdé, Philippe Besson ou Françoise Bourdin. Un livre acheté 5 euros, c'est 4 repas distribués au Resto du Cœur. Vous vous en rappeliez ?
Très bien, moi je l'ai lu, c'était vraiment un bel ouvrage et puis c'est vrai que c'est positif aussi pour les Restos du Cœur.
Alors on aime parler, vous parlez, mais on aime lire aussi, beaucoup, comme Albin de la Simone le chantait il y a déjà 10 ans.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. Je ne risquerai pas
c'est bien. C'est Albin de la Simone ?
Ouais, en 2008.
Je suis ravie de découvrir. Merci Denis. Alors c'est vrai, j'aime lire et puis écouter des histoires aussi. Alors n'oubliez pas notre conteur et son histoire dans une heure en France.
D'ici là, on va au Mont Blanc et à l'étang de Thau après la météo.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.